con toda palabra, con toda sonrisa.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission à l'air libre, aujourd'hui avec Jordi Bonnells. Jordi Bonnells, c'est un écrivain catalan qui vit à Marseille et qui enseigne la littérature et la civilisation contemporaine espagnole à l'université de Toulon. Il est surtout l'auteur de nombreux essais, dont le roman espagnol après 1939, et puis d'autres livres, des romans et des poésies principalement, qu'il écrit en français ou en espagnol selon l'humeur, selon le sujet du livre, selon son inspiration et la manière dont le texte commence. En français, il a deux livres publiés, deux romans, Dieu n'est pas sur la photo et La deuxième disparition de Majorana, tous deux publiés chez Liana Levy. Il a dirigé le Dictionnaire des littératures hispaniques, paru dans la collection Bouquins chez Robert Laffont en 2009. Et il a aussi dirigé le numéro spécial consacré à l'Argentine, intitulé Argentine, avec un S, de la revue Passage d'encre. Ces deux points sont essentiels puisque le thème de la rencontre que je mène aujourd'hui avec lui pour Aller Livre est justement consacré principalement à son activité de spécialiste, universitaire et d'auteur amateur de littérature hispanique en général et sud-américaine en particulier et argentine encore plus en particulier. La raison pour laquelle il est l'invité de ce mois-ci, c'est parce qu'il participe au festival Colibris, les troisièmes journées du livre latino-américain à Marseille, dont la thématique cette année est l'Argentine, qui se déroule du 21 au 25 avril 2010 à Marseille, à la bibliothèque de l'Alcazar et sous chapiteau en haut de la Canebière, et aussi dans différentes villes de la région, Martigues, Aubagne, Arles, Aix-en-Provence. Ces rencontres se déroulent dans différents lieux, mais aussi suivent différentes thématiques. Et Jordi Bonnells fait partie des invités et sera l'une des personnes qui introduira le public à cette littérature sans cesse en évolution et toujours en effervescence. Nous écoutons Jordi Bonnells pour cette rencontre à l'air libre. Jordi, je suis content de te revoir. Je suis à Marseille depuis quelques années. Et là, j'ai eu envie de faire cet entretien avec toi pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu vas bientôt participer au Festival Colibris en tant qu'invité ces journées du livre latino-américain où tu pourras évoquer le travail que tu fais autour de la littérature hispanique en général et pour l'Amérique latine en particulier. Et puis parce que tu as sorti récemment, c'est aussi la raison pour laquelle tu es invité, ce dictionnaire des littératures hispaniques, Espagne et Amérique latine, aux éditions Robert Laffont. Alors j'aimerais peut-être qu'on commence par ça, si tu es d'accord.
Oui, tout à fait.
Comment est venue cette envie de travailler sur un dictionnaire des littératures qui mélange l'Espagne et l'Amérique latine?
Mais écoute, l'envie, elle est venue d'une part du fait que je suis un amoureux des dictionnaires, et cela depuis tout petit. Je me rappelle d'avoir passé pas mal de temps dans une bibliothèque de quartier en train de me faire moi-même un dictionnaire, où j'ai commencé par le A, sauf que, bien évidemment, je n'ai pas terminé, même pas le A, du fait que, en fait, je suis, ça fait un peu prétentieux, mais un peu, un obsessif dans la recherche de la totalité. C'est pour ça que je ne peux pas être collectionneur. Chaque fois que j'ai commencé une collection, je me suis dit, zut, je ne vais pas pouvoir jamais avoir tous les timbres postes du monde. Donc ça me désespère et donc c'est pour ça que je ne collectionne pas les timbres qui me plaisent, par exemple. Les dictionnaires, c'est la même chose. J'aimerais pouvoir faire un dictionnaire avec tous les mots. Comme cela est impossible, j'ai laissé tomber cette entreprise démesurée. Là, dans le dictionnaire donc des auteurs qui écrivent en espagnol, dont des auteurs hispaniques, c'était une envie de rendre compte d'une littérature dans sa globalité linguistique et de ne pas passer par les clivages nationaux, même si les clivages nationaux sont intégrés, bien évidemment. Mais c'était un peu pour essayer de rendre compte d'une littérature dans toute son expression linguistique, c'est-à-dire rendre compte d'une littérature sans barrière nationale. Une envie qui vient donc de cette obsession pour le dictionnaire et qui vient aussi du fait que je suis enseignant à l'université. Donc ça cadrait bien avec mon métier et ça cadrait bien avec mon autre facette qui est celle d'écrivain.
Oui.
Et j'ai voulu donner à ce dictionnaire cette double, en tout cas je l'ai écrit avec cette double casquette, je l'ai écrit, je l'ai dirigé, j'en ai écrit un certain nombre de notices, avec cette volonté de garder la double casquette de l'enseignant, de l'universitaire et de l'écrivain. Ce qui fait que, par exemple, j'ai donné entière liberté aux auteurs qui venaient de tous bords. Très souvent, ce sont des articles qui ont voulu, peut-être par retenue idéologique ou professionnelle, ils ont gardé une certaine retenue dans l'expression, donc ils ont voulu être...
Un certain académisme.
Un certain, disons, universitalisme, si on me permet le néologisme. Tandis que moi, mes articles, je me suis permis, comme j'étais le directeur, donc je n'avais qu'à m'en prendre moi-même, et je me suis donné entière liberté, donc je me suis permis une grande liberté de ton. Ce qui donne aux articles que j'ai écrits justement parfois un côté contradictoire, volontairement provocateur que d'autres articles écrits par d'autres universitaires n'ont pas, tout en étant des... Donc il y a toutes les tonalités, mais il y a cette volonté de garder les deux casquettes. Je pense que c'est l'aspect principal, en tout cas, c'est l'aspect auquel je tiens le plus, et que je tiens à revendiquer le plus, cette double fonction, double fonctionnalité.
Combien il y a eu de collaborateurs pour
Plus de 150 Français, mais latino-américains, nord-américains, anglais, allemands, polonais, un peu de partout. Donc pour les articles qui étaient écrits en espagnol, bien évidemment, on en a fait la traduction, j'ai assuré la traduction, mais la plupart des articles ont été écrits donc à 98%, ils ont été écrits directement en français.
Et est-ce que certains de ces collaborateurs ont suivi un peu la même démarche que toi, en étant assez libre et en mélangeant un petit peu
ces deux aspects ? Ils avaient tous la liberté de ton. Je leur ai donné donc une liberté de ton absolue. Le problème, c'est que moi, je suis universitaire et écrivain, mais les autres, ils étaient universitaires. Donc, c'est normal qu'un universitaire, il écrive avec le ton universitaire qui est le sien. Mais il y a des auteurs qui étaient des écrivains. Je ne sais pas, il y a des articles d'un auteur, d'ailleurs, qui est à l'intérieur, qui a une notice ad hoc, Sergio Delgado, un auteur argentin, qui a écrit des notices. Et bien évidemment, on voit justement cette double casquette chez lui aussi. Il y a quelques cas, mais pour la plupart, ce sont des universitaires qui ont collaboré, donc ils ont gardé le ton qui est le leur. C'est normal.
Alors, tu parlais tout à l'heure des frustrations du dictionnaire absolu que tu ne peux pas, évidemment, créer. Est-ce que, là, j'imagine qu'il y a eu des frustrations aussi, des impossibilités, des auteurs que tu aurais aimé inclure
Bien sûr, mais c'est un handico qui fait 1700 pages, non, je ne me rappelle même plus, mais 1700, à peu près 1700, mais on aurait pu en faire 10 volumes. Parce que les écrivains, il faut penser qu'il y a les auteurs espagnols, mais il y a les auteurs de tous les pays latino-américains. Il y a les auteurs philippins qui ont écrit en espagnol. Bref, c'est un monde incroyable. Je veux dire, c'est pas l'auditeur français doit penser si on devait faire un dictionnaire de la littérature française avec les auteurs français. Canadiens, quelques pays d'Afrique, c'est quand même immense. Mais même comme ça, c'est moindre que le volume national, on va dire comme ça, et territorial et géographique d'un dictionnaire de littérature hispanique. Donc, bien évidemment, il y a plein de regrets. J'ai mis des barrières. C'est un dictionnaire qui va depuis le XIe siècle, où commencent à apparaître les premières manifestations d'un espagnol littéraire, sous forme de petits poèmes qu'on appelle jarchas, dans les poèmes écrits en arabe et en hébreu, jusque je me suis fixé à peu près la date, au moment de l'apparition du livre, donc l'année dernière. Je voulais quand même que les écrivains aient plus de 40 ans. Donc ça va jusqu'aux écrivains nés en 1968. 68-69. Voilà. Donc il y a des écrivains qui sont nés après, que j'aurais bien aimé, parce que je crois que c'est des auteurs importants, mais bon, on se fixe, il faut quand même se fixer une barrière, et même si. Et même parmi ces auteurs donc, qui étaient inclus à l'intérieur de cette vastitude chronologique, bien sûr, il y a des écrivains que j'aurais voulu mettre et que j'ai dû enlever à la dernière minute. Vous savez, j'ai dû enlever, que l'on sache, à peu près 1 million de caractères.
Ah oui.
Qui étaient déjà écrits. Donc 1 million de caractères, ça fait à peu près 400 pages. Hein, 300 pages du dictionnaire.
Un tiers du livre, à peu près.
Un quart du livre, ouais. j'ai dû enlever, avec des auteurs, bien évidemment. Mais il y a des contraintes éditoriales et on est obligé d'éliminer.
Il faudra faire un supplément.
Je pense que c'est une entreprise trop démesurée, même qui m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie, et qui m'a conduit parfois à un certain nombre de conflits.
Oui,
puisque travailler avec beaucoup de monde et travailler avec des éditeurs, ce n'est pas facile.
Oui, parce que là, il y a des choix personnels, mais après, il y a aussi la volonté de l'éditeur. La maison d'édition qui a un certain cadre pour ses collections, ses dictionnaires, et qui a peut-être aussi donné des contraintes ou des choses que tu n'aurais peut-être pas fait de telle manière
les contraintes,
si tu avais été tout seul.
Non, les contraintes, le dictionnaire il est organisé, pour que l'on sache, moi je dirige l'ensemble, mais bien évidemment je ne suis pas spécialiste de l'ensemble, ce qui fait que pour l'Espagne, j'ai découpé la littérature espagnole en grandes périodes historiques, 4 ou 5 périodes historiques, et chaque période, Moyen-Âge, siècle d'or, 18e siècle, 19e et 20e siècle, chaque période a été chapeautée par un directeur de domaine qui a eu entière liberté, en discussion avec moi sur les collaborateurs, sur les articles qu'il fallait inclure, etc. Même si je lui avais donné quand même un canevas assez, qu'ils ont suivi presque avec quelques compléments, quelques ajouts, mais quand même ils ont suivi. Après, pour chaque pays latino-américain, qui dispose d'une notice ad hoc, donc qui explique l'histoire de la littérature de chaque pays a un directeur de domaine aussi, spécialiste dans ce domaine-là. Et à nouveau la même chose, il a établi le canevas des articles, auteurs, œuvres et thèmes qui s'imposaient. Et donc là, bien évidemment, parfois ça peut... Il peut y avoir des difficultés, mais les difficultés avec les amis, les collègues finissent par se résoudre. Il y a les difficultés, les contraintes éditoriales. Tous ceux qui connaissent la collection bouquins savent quand même que c'est de gros bouquins, mais ils ne peuvent pas être, on ne peut pas faire des bouquins de 4000 pages, quitte à en faire un certain nombre de volumes. Le marché pour la littérature hispano-américaine, espagnole, n'est pas suffisant pour que l'on fasse 4 volumes d'un dictionnaire. Donc il fallait que ça rentre dans un volume. L'éditeur était gentil à ce niveau-là, parce que le livre, il devait faire à peu près 1400 pages. J'ai poussé au maximum et il a fini par accepter quand même qu'il fasse beaucoup plus. Mais il ne pouvait pas faire plus de 1600 pages.
Alors justement, ce livre paraît aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu paraître il y a 5 ou 10 ans par exemple? Lui, il n'y a peut-être pas un marché pour 4 volumes, mais aujourd'hui il y a un attrait peut-être pour la littérature hispanique en général et pour les littératures latino-américaines qu'on découvre peut-être plus ou qu'on redécouvre. Est-ce que ça, c'est quand même un moment où il y a un intérêt, où il y a une connaissance un peu plus grande?
Bien sûr, il aurait pu paraître, mais Tu sais, des dictionnaires de cette sorte, depuis que l'édition existe, il n'y en a, dans tout le monde, il n'y en a que trois. Y compris en langue espagnole.
Oui.
Il y a un dictionnaire qui est en anglais, un dictionnaire qui est en espagnol, qui est paru en 93, et celui-ci qui est un... Je parle des dictionnaires d'envergure.
Oui.
Après, il y a des petits dictionnaires de 100 pages ou 200 pages, mais on ne peut pas comparer l'entreprise. Hein. Je veux dire, c'est des dictionnaires, des micro-dictionnaires où on énumère un certain nombre d'auteurs, mais c'est pas la même chose. Des dictionnaires d'envergure, il n'y en a que trois. C'est peu.
Oui.
Et c'est peu pourquoi ? Parce que ça demande un effort colossal. Tu peux pas te rendre compte de l'effort colossal que ça implique, surtout qu'il y a les auteurs. Les auteurs, maintenant avec Internet, n'importe qui peut aller chercher une notice d'un auteur à Internet. Mais il n'aura jamais la globalité groupée sous forme de livre. Il y a les œuvres. Il y a des articles, il y a à peu près...
Oui, il y a des articles sur des
œuvres.
Il y a des articles par thème.
Il y a des articles thématiques. Les articles thématiques, on ne peut pas les trouver sur Internet. Donc, ça demande un effort énorme. Et cet effort énorme, et donc un effort énorme, ça implique du temps. C'est un livre qui a, j'ai commencé à le faire en 2003. Donc, il est paru en 2009. Six ans et demi de travail. Et de travail quand même acharné. Et de tout le monde, avec des retards, avec des engueulades pour le retard. Avec, bon, c'est quand même une tension difficile à tenir. C'est difficile à tenir, je le...
Oui. Ça se fait pas tous les jours.
Et donc, bien sûr, on aurait pu le faire il y a 4 ans, 5 ans, pourquoi pas, encore, il aurait fallu tenir.
Est-ce qu'il y avait des réticences à inclure justement un dictionnaire avec toutes les littératures hispaniques, mêlant justement les pays, les nationalités, ou est-ce qu'au contraire, c'était assez naturel et ça paraissait assez évident?
La réticence de la part de qui ?
C'est moi, universitaires ?
C'est moi qui chapeautais l'affaire. S'il y a eu des réticences, il n'avait qu'à ne pas collaborer. Donc, réticence, je
ceux
n'avais aucune réticence envers moi-même.
Oui.
Et par rapport aux autres, ceux qui n'avaient pas de réticence ont collaboré. Mais d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on aurait eu de réticence. C'est refondé sur quoi, d'après toi ?
Je ne sais pas, parce que les départements universitaires ne mêlent pas forcément la littérature d'Espagne et les littératures latino-américaines, par exemple. C'est coupé.
C'est coupé dans la...
Il n'y a pas un enseignement commun, enfin pas toujours un enseignement commun.
Oui, il y a un enseignement commun dans le cadre de... Non, là, tu n'es pas... Trompe-toi. Là, je pense qu'il y a quelques universités où, pour des problèmes, il y a toujours des problèmes de pouvoir à l'université, comme ailleurs d'ailleurs, pour des problèmes de pouvoir essentiellement, on veut qu'il y ait deux départements différents au sein d'une même faculté de lettres.
Oui.
Mais après, ça converge vers un diplôme unifié, qui est un diplôme unifié d'espagnol. Donc, ça, c'est le cas de l'Aix, par exemple. C'est une université qui est particulièrement conflictuelle. En son sein, je ne crains pas de le dire, donc mais elle n'est pas la seule.
Oui.
Dès qu'il y a une question de pouvoir, les gens sont derrière, sont avides de pouvoir, avides d'argent, essentiellement.
Bon. Alors, ce livre, tu disais tout à l'heure, ce dictionnaire, tu as fait des articles, toi, directement. Est-ce que tu t'es réservé quelques auteurs principaux ou quelques textes principaux où tu as fait ça vraiment par affinité personnelle? Comment est-ce que tu as retenu les articles que tu as écrits personnellement? Est-ce que ça fait ma question, elle est un peu dirigée, j'ai envie de savoir si à travers ce que tu as retenu comme article, si c'était un portrait de tes goûts personnels ou de tes affinités littéraires?
Oui et non. J'étais expliqué que c'est un dictionnaire qui a été découpé en domaines, par siècle pour l'Espagne et par pays pour l'Amérique latine. Je connais rien pour le dire comme ça, je connais mais d'une manière comme un amateur éclairé, je ne connais rien au Moyen-Âge. C'est absurde que j'écris sur le Moyen-Âge. Je ne connais pas grand-chose au siècle d'or. À nouveau, je suis un amateur éclairé. J'ai dirigé la même chose pour le XVIIIe siècle, pour l'Amérique latine, il y a un certain nombre de pays où je ne connais rien, etc. Ça serait absurde que je me réserve des auteurs auxquels je ne connais pas grand-chose. Après, bien évidemment, en fonction de mes connaissances, moi-même, j'ai dirigé, je suis spécialiste du 19e, 20e siècle, j'ai dirigé donc non seulement des dictionnaires, mais le domaine 19e, 20e siècle. Donc, à l'intérieur de mon domaine, j'ai écrit pas mal de notices qui étaient guidées soit par le fait que je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui les écrive, et c'était des auteurs que je connaissais bien. Soit parce que c'était des auteurs que je connaissais bien, sur lesquels j'ai travaillé, etc. Donc tu vois, après, dans mon domaine, il y a eu des auteurs pour lesquels on a pu me faire faux bond. Si je connaissais les auteurs, j'ai rédigé les notices. Oui. Si je ne connaissais pas, je cherchais un auteur, un rédacteur, qui puisse rédiger la notice. Après, il y a un certain nombre d'auteurs qui n'étaient pas dans mon domaine spécifique universitaire. Je pense par exemple, j'ai rédigé la notice Borges, un auteur que je connais très bien, sur lequel j'écris un livre. Mais pour t'expliquer, c'est une notice que j'avais donnée au départ, et j'avais donné entière liberté au directeur du domaine argentin pour qu'il choisisse celui qu'il voudrait. En se mettant d'accord avec moi, bien évidemment, mais il n'a trouvé personne. Lui-même, il ne voulait pas écrire la notice de Borges. J'étais ravi de pouvoir écrire la notice de Borges. Mais c'est pour te dire que je ne me suis pas imposé pour rédiger telle ou telle notice en disant, puisque je suis le directeur, je me réserve oui. Bien évidemment, j'étais ravi d'écrire la notice sur Borges. Après, dans le domaine argentin, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Je ne sais pas si je vais faire la fausse modestie. Donc, dans la mesure où il y avait un certain nombre d'auteurs que je voulais, moi, inclure dans ce domaine-là, et pour lesquels le directeur de domaine, il n'avait pas de rédacteur particulièrement attitré, je me suis permis de rédiger un certain nombre de notices. Je pense par exemple à la notice de Benesdra, qui est un auteur qui n'est pas du tout connu, mais que je tenais à inclure, parce que je trouve que c'est un grand écrivain en tout cas. Il a écrit un grand livre. C'est le traducteur, que j'espère un jour on traduira en français.
Oui, parce qu'il faut dire ça aussi, il y a des auteurs, des notices auteurs qui ne sont pas encore traduits en français. Ce n'est pas du tout un paysage, un panorama de ce qui existe en édition française, mais bien des littératures hispaniques dans leur langue originale.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on fait une distinction à l'intérieur du livre. Tous les titres, à la date de parution du dictionnaire, qui ont eu une traduction française, même si cette traduction elle date du 19e siècle, on a mis le titre en français de la traduction, avec entre crochets le titre original en espagnol. Les titres originaux en espagnol n'apparaissent que pour ces livres à la date de parution de mon dictionnaire qui n'ont pas eu de traduction française encore.
Alors, tu parlais de l'Argentine et ta connaissance du domaine littéraire argentin. En ce moment, tu vas faire paraître, enfin, c'est pas toi qui vas faire paraître, mais tu es le responsable maître d'œuvre d'un numéro spécial d'une revue, Passage d'encre, consacré à l'Argentine, justement. Est-ce que tu peux en parler? Quand est-ce que ça sort? Est-ce que c'est déjà disponible? Comment est-ce qu'est conçu ce numéro?
Bien sûr, Passage d'encre, c'est une belle revue d'art et de poésie qui est publiée à Paris, à Romainville, enfin c'est à côté de Paris, depuis une dizaine d'années, même peut-être plus. Là maintenant, je ne peux pas dire exactement quand est-ce qu'elle a été fondée, pour laquelle j'ai collaboré avec un certain nombre de textes littéraires et à qui j'avais proposé de faire cette année l'Argentine et le pays à l'honneur à la foire de Francfort. Je me suis dit, c'est une bonne année pour faire paraître un numéro sur les auteurs argentins contemporains, littéraires ou paralittéraires, justement pour fêter cette mise en vedette, si l'on veut, de la littérature argentine. Donc j'ai contacté une douzaine, une quinzaine d'auteurs argentins importants, ou moins importants, des vieux, entre guillemets bien évidemment, et des jeunes, entre guillemets aussi, et donc ça va de Ricardo Piglia, Florencia Abate, à Carolina Aguirre, à Eduardo Mayo, etc. Donc des auteurs plus ou moins reconnus qui ont tous voulu contribuer avec un texte littéraire ou des textes de témoignage sur la situation, l'histoire argentine. Ainsi, c'est un numéro qui dispose d'un article magnifique de la petite fille du grand poète moderniste argentin Lugones, donc, qui raconte un peu sa trajectoire, disons, tourmenteuse et tourmentée. Il y a un article de García Romeu sur les années de plomb en Argentine. Il y a un article sur l'agent littéraire Guillermo Chavelson, sur sa trajectoire comme agent littéraire. Bref, c'est un kaléidoscope, c'est un puzzle assez intéressant, je crois. C'est pas parce que moi j'ai les mises en place, mais enfin, à nouveau, je pense que c'est un numéro très intéressant qui donne un peu une vision vivante de ce qu'est la littérature argentine sous toutes ses facettes.
Ouais, et multiple, donc, aussi.
Et multiple, bien sûr.
Avec le titre Argentine,
avec des photographies de Daniel Morzinski, qui est un des grands photographes des auteurs, des écrivains contemporains, argentins d'ailleurs.
Alors, certains des auteurs de cette revue sont dans le dictionnaire, d'autres n'y sont pas, parce qu'ils sont jeunes peut-être aussi, ou parce que tu n'as pas...
Andrés Neumann, par exemple, c'est un grand auteur argentin, hispano-argentin, mais il n'y est pas parce qu'il est né en 60...
Il est trop jeune.
Il est trop jeune. Il est né en 74 ou par là, donc il ne pouvait pas être inclus dans le dictionnaire. J'ai regretté parce que c'est un grand auteur, mais bon, c'est comme ça.
Alors, toute cette période consacrée à l'établissement de ce dictionnaire, le travail autour de la revue dont tu viens de parler, ça t'a pris beaucoup de temps, tu l'as dit, beaucoup d'énergie. Est-ce que ça t'a pénalisé d'une certaine manière dans ton travail d'écriture personnelle, puisque tu es romancier, que tu écris aussi d'autres travaux universitaires? Est-ce que ça t'a un peu privé de ce travail personnel, ou est-ce que tu as continué et comment?
Je ne crois pas aux conditions idéales pour l'écriture. Moi, j'ai toujours écrit, tu me connais, j'ai des enfants, je me suis toujours occupé à temps plein de mes enfants. J'ai toujours écrit avec les enfants qui... Je ne suis pas comme Thomas Mann qui... C'est pour ça que d'ailleurs ses enfants, ils ont mal terminé. C'était quand il travaillait tout au long de la journée, personne ne pouvait, on pouvait dire, il ne pouvait même pas respirer. Moi, mes enfants, ils sont toujours venus, pendant que je travaille, se mettre sur mes genoux, m'embêter, ouvrir des fichiers. Maintenant, on travaille avec des ordinateurs, des fichiers qui étaient sur mon ordinateur. Je quittais ce que j'étais en train d'écrire, je revenais. Donc, il n'y a pas des conditions idéales. C'est vrai que ça m'a pris du temps, c'est vrai que ça m'a pompé psychologiquement, mais ça fait partie de la vie. J'ai continué à écrire. La preuve, c'est que pendant cette période-là, j'ai écrit un livre en espagnol qui a reçu un prix important en Espagne l'année dernière. Et c'est un livre que j'ai écrit entre 2004 et 2008. Donc, tu vois, ça coïncidait exactement. Oui. Et c'est un gros livre. Ce n'est pas un petit roman de 100 pages, c'est un roman de presque 400 pages. Écrire un roman de 400 pages, ça demande quand même de la persévérance, de la constance, etc. Donc j'ai mené de front les deux tâches, parce qu'il n'y a pas de situation idéale. Je ne crois pas à ces écrivains qui disent « Ah, si je ne travaillais pas, ah, si je n'avais pas ceci, ah, si je pouvais disposer d'une maison à la campagne en regardant les petits oiseaux et me lever le matin ». Je suis sûr, ceux qui se disent ça, ils n'écriront jamais.
Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ce livre, puisqu'il n'est pas encore traduit en français, et du fait que tu l'aies écrit en espagnol, puisque tu as fait paraître des livres en français et en espagnol. Il y en a deux que j'ai sous les yeux, hein, là, la deuxième disparition de Majorana et puis le Dieu n'est pas sur la photo qui sont parus chez Liana Levy, que tu as écrit en français, mais tu écris et tu continues à écrire en espagnol. Alors comment est-ce que ça se passe, ça?
Je ne continue pas.
Tu reviens?
Non. Comme j'ai toujours dit, j'écris en espagnol. J'écris en français quand j'en ai marre d'écrire en espagnol, et j'écris en espagnol quand j'en ai marre d'écrire en français. J'habite en France depuis 70. Je continue à avoir des contacts avec l'Espagne, avec l'Amérique latine, constant, permanent. J'y ai vécu à des périodes, dans ce laps de temps entre 70 et maintenant, j'y ai vécu en Argentine, en Espagne, pendant certaines périodes. Donc, je peux écrire en espagnol et en français. Si je pouvais écrire en chinois, j'écrirais en chinois. Pour moi, la langue, je sais que ça, c'est... D'ailleurs, c'est... Je veux dire comme ça, ça fait... C'est très français, très, très normalien. Et ça peut se justifier pour certains, j'en conviens. De faire toute une salade sur la langue, oh oui, la langue par-ci, la langue par-là... La langue, moi, je l'utilise comme un outil. Je n'écris pas comme Proust, je n'en ai pas les moyens. Peut-être, si j'écrivais comme Proust, je me poserais ces questions métaphysico-normalisées ou normaliennes sur la langue, etc. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'adopte un profil bas par rapport à la langue. C'est un outil, je l'utilise en espagnol quand j'en ai envie, je l'utilise en français quand j'en ai envie. Quand les éditeurs espagnols, j'ai des problèmes avec eux, j'ai tendance à écrire en français. Quand les éditeurs français me posent des problèmes, j'ai tendance à écrire en espagnol. Ils ont oublié déjà les problèmes qu'ils ont pu avoir avec moi ou que j'ai pu avoir avec eux, donc je réussis à publier à nouveau. Et j'espère qu'en français, vice-versa. Là, j'ai arrêté d'écrire en français parce que j'ai eu des problèmes avec mon éditeur. Et donc, je me suis mis à écrire en espagnol et j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Vous savez, c'est un combat. Hein. Les gens, vus de l'extérieur, pensent qu'on écrit, allez, c'est pas évident, même lorsqu'on a un
même
passé littéraire. Moi, j'ai
fois.
Commencé à publier mon premier livre en 1988, un livre d'ailleurs qui a été finaliste d'un prix très important en Espagne, le prix Herralde du roman. J'ai été finaliste aussi d'un autre prix très important en Espagne, le prix Planète. Ce n'est pas pour autant que les portes des éditeurs se sont ouvertes à moi. Je suis obligé de continuer à frapper, à voir s'ils me publient. La même chose en France. C'est un combat de tous les instants. Donc là, en ce moment, j'écris en espagnol parce que ça marche en espagnol.
Là non plus, il n'y a pas de condition idéale.
Je continue, comme je mène toujours plusieurs romans en même temps, en ce moment, j'écris un truc en espagnol et j'écris un autre roman en français. Est-ce que je vais les publier? Allez savoir, j'en sais rien. Est-ce que je vais les terminer pour commencer? Je pense que je terminerai parce que je suis quand même quelqu'un de persévérant. Je suis constant, j'aime pas échouer. Donc quand je commence quelque chose, il faut que je la mène jusqu'au bout. J'aime pas me dire j'ai échoué dans ce que j'entreprends. Et pour le moment, tout ce que j'ai entrepris, j'ai réussi plus par persévérance que, comme disait l'autre, le travail de création, c'est 99% d'efforts et 1% de talent. Ouais. Donc moi, chez moi, ça va être un peu moins en plus.
C'est comme ça qu'on a un dictionnaire de 1700
voilà.
pages.
Il faut persévérer. Moi, je persévère. Et donc pour mon écriture littéraire, je persévère. Donc l'année dernière, j'ai publié donc, ce roman en espagnol, qui s'appelle « Tourner le dos ». Et bon, je continue d'écrire en espagnol et en français.
Est-ce que... quelque chose change si tu dans les thèmes, dans ta manière d'aborder l'écriture quand tu
non,
passes de l'espagnol au français? Comme tu disais tout à l'heure,
c'est
un outil. Est-ce que avec un outil un peu différent, tu fais des choses un peu différentes ou...
Non.
Tu ne perçois pas comme ça?
Non, moi, j'ai tous mes romans, ils ont une composante, une dimension autobiographique. Point numéro un. C'est une banalité, il y a plein de... plein de romanciers, je dirais même tous, même Harry Potter certainement, donc c'est une banalité. Mais il y a une composante autobiographique. Deuxièmement, le thème essentiel de mes romans, c'est deux questions. L'une, c'est qu'est-ce qu'un fils de pute ? Et deux, c'est quand est-ce qu'il y a un fils de pute ? Voilà les deux axes ou les trois axes qui organisent mes romans. Donc autour de ça, j'écris soit en français, soit en espagnol. Et je vais continuer parce que maintenant déjà je commence à être un peu vieux. Et donc il me reste quoi ? L'autre jour je me disais, j'ai 58 ans, donc il me reste quoi ? Allez, mettons, avec un peu d'optimisme, jusqu'à 70 ans de... plus ou moins d'être en forme, j'essaye de me maintenir, c'est pour ça que je cours le marathon, donc pour maintenir, peut-être d'ailleurs un jour j'aurai un infarctus en courant le marathon, donc ça va se terminer, mais enfin, je me donne encore 12 ans de travail, plus ou moins efficace, c'est pas énorme, donc je vais pas changer de thème, je vais continuer à me poser.
Surtout que le thème est inépuisable.
Il y en a plein de fils de pute, oui. Et donc c'est assez inépuisable, oui. Voilà. Et donc, tous les romans que j'écris et tous les textes que j'écris, c'est autour de cette question. Quand est-ce qu'il y a un fils de pute et qu'est-ce qu'un fils de pute ?
Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ce roman en espagnol, puisqu'on ne peut pas le lire en français ? Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir une traduction aussi ?
Ce roman en espagnol, c'est l'histoire d'un joueur d'échecs qui est parti en 1900, un joueur juif allemand, qui est parti en 1933 d'Allemagne. En Palestine, en 1939, la Palestine, qui était sous mandat britannique, a envoyé une équipe de joueurs d'échecs aux Jeux Olympiques mexicains qui avaient lieu à Buenos Aires. La guerre a éclaté début septembre et ce joueur, il est resté vivre à Buenos Aires pendant longtemps. Et à Buenos Aires, à partir de 1945-46-47, sont arrivés les nazis qui fuyaient la défaite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est autour de ce croisement, d'une part, entre les victimes et d'autre part, les bourreaux, dans un lieu, c'est l'Argentine. Et cela renvoie dans le roman au passé du narrateur qui a coïncidé tout au long de son enfance et de son adolescence, puisque son père était chauffeur de maître, et il était chauffeur du dirigeant du PDG de la Höchst, c'était une grande société pharmaceutique allemande, issue de la IG Farben. La IG Farben, c'était celle qui produisait le gaz avec lequel on gazait les juifs à Auschwitz. Donc, il a vécu dans la même maison où ils habitaient, ces Allemands-là, ces directeurs de la ancienne nazie. On parle de l'Espagne franquiste. Et donc, l'évocation de ce personnage de Vince et des nazis qu'il rencontre en Argentine renvoie en quelque sorte au passé du narrateur qui a coïncidé pendant 19 ans à Barcelone avec cet ancien nazi qui a fini par être directeur d'une société pharmaceutique dans l'Espagne franquiste. Voilà en gros expliqué d'une manière très... Donc il y a ce côté historique...
Oui. Qui est toujours présent dans tes livres.
Argentin, et ce côté biographique, autobiographique dont je parle, puisque, bien évidemment, derrière le narrateur se cache ma propre expérience personnelle.
Avec des réminiscences de l'Espagne franquiste, de la dictature en Argentine.
Voilà. Donc, c'est ce dialogue permanent qui s'établit entre la dimension collective du nazisme dans sa globalité et la dimension personnelle, dans ce cas-là, la dimension personnelle du narrateur et aussi, bien évidemment, à travers le personnage de ce Victor Vince que le narrateur a connu à Nice, puisque le personnage de Victor Vince a fini par partir de l'Argentine et il a fini ses jours dans la ville de la Côte d'Azur, Nice, où il a, où il continuait de jouer aux échecs.
Alors, cet intérêt pour des raisons personnelles aussi, mais aussi peut-être parce que ce sont des espaces que tu connais bien, l'Espagne franquiste, l'Argentine, l'Espagne, évidemment, mais ce rapport à l'histoire et à une histoire pesante, est-ce que au fur et à mesure de l'écriture de tes livres, il y a des choses qui changent? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder ces thèmes ou de les percevoir ou de les rapporter, qui évolue de livre en livre?
Certainement. Je ne peux pas... Là, j'ai lu récemment un entretien avec Modiano, il disait quelque chose de très juste. L'écrivain, il finit par ne plus avoir une vision globale de ce qu'il écrit. Il est trop pris par le détail. Trop pris par le détail, et parce qu'il sait que... On dit Dieu est dans les détails, l'écrivain est dans les détails. Il sait que tout, si le roman marche, c'est-à-dire, bon, le roman marche, ça veut dire, si le roman est efficace, tient le lecteur, oblige le lecteur à poursuivre la lecture, c'est en grande partie parce que les détails fonctionnent. Donc il est trop pris par les détails pour avoir une vision d'ensemble de son écriture. Certainement, j'ai évolué, je pense que j'ai évolué vers une plus grande liberté. Quand on commence à écrire, on veut, et surtout quand on a été influencé quand même, et c'est mon cas, par une littérature française qui... La littérature française a un défaut, peut-être une qualité, mais je le vois maintenant comme un défaut, elle veut être brillante. Les écrivains français traditionnels et les jeunes écrivains actuels qui publient par exemple chez Paul, aux éditions des Minuit, etc., ce sont des écrivains essentiellement qui veulent être brillants. Et je pense de plus en plus qu'on ne peut pas écrire avec de la brillance. La brillance, elle est là où elle n'est pas. Mais on ne peut pas être intentionnellement brillant. Et le problème de la littérature française, de mon point de vue, c'est qu'elle veut être intentionnellement brillante. Et ça fait des romans, de mon point de vue aussi, des romans qui me tombent des mains. Donc, je crois, moi, pour ce qui me concerne, moi, je pense que cette volonté de brillance existait dans les premiers textes que j'ai écrits en espagnol. Mais peu à peu, je me suis débarrassé. Je ne vais pas faire des phrases, des belles phrases, des phrases brillantes. Je ne vais pas me regarder dans le miroir de la brillance en me disant oh là là, qu'est-ce que tu as bien écrit. Je vais être efficace. Je vais être efficace, un peu comme ça peut être là quelque chose d'un peu provocateur, mais j'aimerais être brillant comme dans les séries 24 heures de Jacques Bauer. Que je suis je vais être efficace dans ma manière d'écrire, et donc dans cette recherche d'efficacité, je pense que je m'accorde beaucoup plus de liberté que je ne m'accordais il y a quelques temps, tenaillé justement par cette volonté de briller.
Est-ce que c'est aussi ça correspond aussi finalement à cette volonté de casser un petit peu les carcans, cette manière d'aborder ce dictionnaire où tu as dit soyez le plus libre possible à tous tes collaborateurs, ne restez pas dans une forme préétablie, et toi-même tu t'es laissé toute cette liberté.
Oui, là c'est quand même deux démarches différentes, même si j'insiste, la démarche de l'écrivain, elle était présente là. Oui. Je crois que la vision de la littérature, elle peut être rendue, là je te parle du dictionnaire, hein, elle peut être rendue par ce qu'on peut appeler une vision universitaire, mais aussi elle doit être rendue par une vision littéraire des praticiens de la littérature, de la même manière que le monde de l'art, je ne suis pas contre les critiques, au contraire, contre les critiques ou les critiques universitaires, mais je pense que le point de vue de l'écrivain est extrêmement puissant. C'est un point de vue puissant. Je pense, je ne sais pas, par exemple, le point de vue d'Henry James. Henry James, il préfaçait tous ses romans avec un texte où il réfléchissait sur ses propres romans. Ces livres d'Henry James, les textes de Nabokov qui viennent d'être publiés justement dans la collection Bouquins, les textes de Joyce, des critiques, ce sont des textes essentiels pour la compréhension de la littérature, que l'on soit universitaire ou non. De la même manière, il y a des textes des universitaires qui sont essentiels pour la compréhension de la littérature, que l'on soit universitaire ou non. Et donc, j'ai voulu mettre ensemble ces deux points de vue, mettre ensemble, bien évidemment, d'une manière précaire, mais je n'ai pas voulu exclure un point de vue. J'ai voulu, si c'était possible, que les deux points de vue soient présents dans mon dictionnaire. Et je pense que j'ai réussi.
Pour terminer, est-ce que, justement, par rapport à cette volonté de briller de la littérature française, est-ce que tu as le sentiment que pour la littérature en langue espagnole, il y a moins cet attachement à une forme qui a plus le goût d'être efficace ou de raconter des histoires, et peut-être particulièrement pour le monde latino-américain?
Oui, être efficace ne veut pas dire raconter des histoires. Attention, non,
c'est deux choses différentes.
Attention, c'est deux choses différentes. C'est pas ce que j'ai dit.
Deux points
c'est
que
efficace dans la manière de narrer. Après, on peut. Moi, j'adore les livres où on ne raconte aucune histoire. Hein? Mais il faut être efficace dans la façon de narrer.
Alors, de raconter, on enlève des histoires, de raconter.
Oui, donc
de narrer.
Par exemple, un exemple très connu, puisqu'on en parle un peu partout, Bolaño. Les histoires de Bolaño sont intéressantes, mais des histoires comme celles que Bolaño raconte, elles ont déjà été racontées par plein d'autres. De toute manière, les écrivains n'inventent rien, on parle toujours de la mort, de l'amour, de machin, c'est toujours la même chose. Le poids de Bolaño réside dans le fait qu'il raconte d'une manière efficace, d'une manière où la triade traditionnelle, explication, description, dialogue, qui nourrissent la plupart des romans, disparaît derrière la notion d'action. Dans les romans de Bolaño, il n'y a que de l'action, et la description, l'explication et les dialogues dépendent de l'action, du déroulement de l'action, ne viennent pas l'expliquer.
Oui.
Ils viennent après l'action ou dans le jeu même de l'action. Et c'est ça qui le rend efficace. Tu ne trouveras pas chez Bolaño une description tel personnage, il était blond, 1m80, le nez long, les oreilles courtes, la moustache. Non. Tu finis par ne plus savoir comment ils sont. Mais en même temps, tu sais immédiatement comment ils sont. Il y a une action qui prime surtout. Les romans de Bolaño sont ceux qui se ressemblent le plus aux séries américaines, Dr. House, The Shield, 24 heures, etc. Parce qu'ils sont efficaces. Il n'y a pas de lenteur dans la suite de explications, descriptions, dialogues. Et ils ne cherchent pas la phrase brillante. Ils cherchent la phrase efficace. Même si très souvent, les phrases efficaces deviennent brillantes. Oui. C'est ça sa force. Moi, la chose que j'aimerais, donc c'est pas que j'ai renoncé, pour mon travail d'écriture, c'est pas que j'ai renoncé à la brillance, mais je ne veux pas en faire une intentionnalité. Je veux arriver à la brillance par l'efficacité. Si je suis efficace et ça finit par être brillant, je serai ravi. Bien évidemment, je ne réussis pas, sinon ça se saurait. Mais je persiste.
Et comme souvent tu arrives à tes fins, peut-être que justement tu constateras...
J'arrive à mes fins au niveau du travail. Une autre chose, c'est disons, l'œuvre elle-même. Ça, elle peut être matériellement réalisée, mais qu'elle soit bien ou pas bien, ça, là, ça ne dépend pas de la persévérance, ça dépend du talent. Mais que veux-tu ?
Écoute, merci beaucoup Jordi pour tous ces commentaires très riches sur ton travail et sur les littératures hispaniques à travers ce dictionnaire. On se retrouve donc bientôt à Marseille, ici même, hein, puisqu'on est à la brasserie des Danaïdes.
Le mois prochain.
On sera juste à côté, sous un chapiteau, à la fin du mois d'avril.
Je rentrerai d'Argentine, justement.
Voilà, tout
frais, le 21.
Avec les idées... toute Argentine encore.
Endormi avec le jet lag.
Merci beaucoup, Jordi.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette émission à l'air livre, aujourd'hui avec Jordi Bonnels, qui était l'un des invités de cette manifestation Colibris, troisième journée du livre latino-américain à Marseille et dans la région, consacrée à l'Argentine. Vous trouverez sur le site internet de Radio Grenouille et sur le site www.adaal.fr des auteurs aux lecteurs qui organisent la manifestation Colibris. De nombreux autres renseignements et sur la manifestation et sur Jordi Bonnels, ainsi que la biographie et la bibliographie de Jordi Bonnels. Voilà, prochaine émission à l'air livre au mois de juin à présent. Au revoir.
Secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Ruego en la boca y un ruego en el alma.